Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est aux chrétiens de la ville de Corinthe que Paul adressa ces mots qui préludent à un véritable cri d'indignation contre cet esprit mesquin des chrétiens qui, au lieu de rester groupés, unis, parfaitement emboîtés dans le Christ, semblent se le partager en morceaux, en se réclamant qui de Paul, qui d'Apollos, qui de Pierre, qui de Christ. Le Christ est-il divisé ? S'écrie l'apôtre, en proie à une juste colère. Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous, ou serait-ce par le nom de Paul que vous avez été baptisé ? Nous pouvons constater, en passant, combien ce texte, pourtant rédigé il y a quelque 19 siècles, est encore tout brûlant du souffle passionné de l'apôtre du Christ. Combien ces paroles sont encore méritées, et plus que jamais. Car les hommes semblent aujourd'hui encore plus désireux de préserver leurs traditions que de s'imprégner du langage du Christ et de ses apôtres. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur cette portion du texte que nous avons lu, où l'apôtre conjure les destinataires de sa lettre de tenir tous un même langage. C'est ici un appel à vivre dans l'unité, parlant en harmonie les uns avec les autres. Si les sectes qui menaçaient de déchirer l'église des Corinthiens n'avaient évidemment pas pour cause la soudaine multiplicité des langues, la confusion qui régnait aurait pu laisser entendre qu'à l'instar des bâtisseurs de la tour de Babel, les membres de l'Église ne parvenaient plus à se comprendre les uns les autres. Ils parlaient tous la même langue et sur un même sujet, mais ils ne parvenaient pas à s'entendre. N'est-ce pas là notre drame, à nous aussi, chrétiens du XXe siècle? En lisant ce texte, j'ai pensé combien, nous aussi, tout en parlant la même langue, nous ne tenons cependant pas le même langage. Je voudrais vous montrer que ceci n'est pas qu'une formule subtile. Ce n'est pas qu'un jeu de mots, car précisément ce sont les mots qui ne transmettent pas à tous le même message, qui ne suggèrent pas à tous la même idée. Pourtant, c'est avec des mots qu'il faut communiquer. Ce sont les mots qui définissent la pensée, forment toute une attitude, orientent une existence, élaborent une doctrine. Or, si le même mot n'a pas pour Monsieur X le même sens que pour Monsieur Y, ils ont beau parler la même langue, ils ne parlent pas le même langage. Le verbe « étonner », par exemple, n'avait pas au XVIIe siècle la signification qu'on lui donne aujourd'hui. Être étonné signifiait alors être frappé par la foudre, être ébranlé comme par un coup de tonnerre. De nos jours, il n'a plus ce sens étonnant. Il s'est considérablement adouci pour devenir synonyme de surprise. Cela est dû à une évolution du langage qui a affecté le mot même dans sa signification. D'ailleurs, les hommes de lettres qui traduisent un texte de français ancien en français moderne doivent tenir compte de cette évolution du mot et procèdent alors à une véritable adaptation pour rendre le texte ancien accessible aux lecteurs modernes. Il en est de même du vocabulaire biblique. Nous savons que le Nouveau Testament a été rédigé presque exclusivement en grec ancien. Or, ce grec est aujourd'hui langue morte, au même titre que le latin. C'est-à-dire qu'elle est restée à jamais figée dans la forme et la signification qu'elle avait à l'époque où elle est morte. Les traductions de la Bible en langue moderne se sont efforcées de ressusciter, en quelque sorte, le sens que les mots possédaient à l'époque du Christ et des apôtres, à l'époque où la langue vivait. Il importe donc de respecter ce vocabulaire biblique comme le monument d'un message ayant une signification précise et définitive. Ce serait changer, modifier ce message que de faire subir à son vocabulaire une évolution. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Non pas que nos traductions modernes de la Bible soient faussées, loin de là. Le lecteur moderne peut encore, il peut toujours, savoir, en lisant la Bible, ce que Paul, ce que Pierre et les autres rédacteurs de la Bible ont voulu dire en leur temps. Mais il s'est produit par l'usage, par l'innovation de certains rites, par un certain enseignement, un écart du sens originel du vocabulaire biblique, de sorte que, et c'est là le drame, le même mot n'a plus pour le croyant du XXe siècle le même sens qu'il avait pour un chrétien du premier siècle. Précisons. Que suggère le mot « sainteté » ou « saint » aujourd'hui ? À l'esprit d'une écrasante majorité de croyants, ce mot évoque un personnage mort depuis longtemps, dont la vie a été exceptionnelle du point de vue de la piété, et que l'on représente toujours avec une auréole, signe de son accession à la sainteté. En outre, un saint, de par son état, est apte à intercéder auprès de Dieu en faveur des mortels, et il est hautement recommandé de solliciter son intercession efficace. Voilà un exemple d'évolution illégitime de vocabulaire biblique. En effet, aucune phrase dans le Nouveau Testament ne permet de donner au mot « saint » une telle signification. Comment ce mot est-il utilisé ? Il est surtout en rapport avec la majesté de Dieu. Dieu est saint. Tout ce qui entre en contact avec sa divinité est saint. Littéralement, mis à part, séparé de ce qui est profane. Ainsi, ce terme, dans la bouche des apôtres, était-il synonyme de chrétien, comme nous le prouvent plusieurs textes tirés des lettres de Paul. Tout au commencement de plusieurs de ses épîtres, il s'adresse par exemple aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Ces trois textes, suffisamment clairs pour nous montrer combien les hommes se sont écartés du langage et de la pensée des apôtres. Un autre exemple que suggère le mot baptême à l'esprit de nombreux croyants. Presque toujours, une cérémonie autour d'un nouveau-né. Que suggérait ce mot à un croyant contemporain des apôtres ? Voilà la question importante. Tout d'abord, il suggérait une plongée dans l'eau, une immersion. Les traducteurs n'ont d'ailleurs pas traduit ce mot à proprement parler. Ils l'ont francisé en quelque sorte. Ils ont traduit le verbe baptizo, le mot baptizo, qui est devenu baptême. Certaines traductions de la Bible utilisent d'ailleurs le mot immerger au lieu du mot baptiser. Ainsi, n'est-il pas étonnant de lire dans l'évangile de Jean que Jean-Baptiste, littéralement Jean l'immergeur, baptisé à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Ainsi s'explique aussi ce texte de la lettre aux Romains, où l'apôtre Paul associe l'immersion et la sortie de l'eau, opérée pendant le baptême, à un ensevelissement et à une résurrection du croyant avec le Christ. Ici encore, les textes parlent d'eux-mêmes, pour nous montrer combien nous nous sommes écartés de la pensée des apôtres, pour ne rien dire du fait que le baptême ne s'administrait qu'à des adultes, capables d'exprimer leur foi et de faire de cet acte précisément un acte de foi et d'obéissance personnelle. Prenons un troisième exemple, le mot « évêque ». Dans la Bible, un évêque est un surveillant, car c'est ce que signifie ce titre. Loin d'exercer ses fonctions sur une assemblée d'église, il les exerçait au sein d'une assemblée locale. De plus, les textes suggèrent même qu'il partageait cette fonction avec plusieurs autres surveillants. Ils étaient encore appelés des anciens. Voici d'ailleurs quelles étaient les qualifications d'un évêque. C'est l'apôtre Paul qui les rédige dans sa lettre à Timothée. « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, écrit-il, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. » Ce texte montre clairement que l'accession à cette charge pouvait se faire au niveau de l'Église locale, au sein de l'Assemblée. Dans ce contexte, mentionnons aussi la fonction suggérée par le mot « prêtre ». Dans l'Ancien Testament, le prêtre ou sacrificateur est un intermédiaire entre Dieu et le peuple. dans le Nouveau Testament, ce sacerdoce disparaît, ou plutôt, il se confond avec la personne du Christ, qui est désormais le souverain sacrificateur, le grand prêtre, le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes, comme le souligne l'apôtre Paul. Par ce fait, une grande doctrine se dessine dans l'enseignement des apôtres, à savoir que chaque chrétien, chaque saint, sans distinction aucune, est un prêtre, un sacrificateur. Qu'est-ce à dire ? Cela signifie qu'il peut avoir accès auprès de Dieu, au nom de ce Jésus en qui il croit. Il n'y a pas d'autre intermédiaire que lui. Et les sacrifices qu'il offre à Dieu, c'est son service, ses prières, sa disponibilité à la volonté divine. L'apôtre Paul écrit à cet égard, « Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Ce ne sont là que quelques cas parmi d'autres. Il nous aide à comprendre le pourquoi de la mésentente qui divise les rangs des chrétiens. Ils nous aideront aussi à entrevoir le remède à ce mal, à savoir revenir à l'Écriture résolument, quitte à réviser ou corriger nos conceptions pour retrouver le langage des apôtres, pour parler comme eux, définir comme eux, penser comme eux et finalement agir comme eux. C'est le seul moyen de redevenir vraiment apostolique.